La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus, notre frère, notre sauveur. Bienvenue à vous tous ici, dans ce lieu, pour ce matin particulier. Un matin particulier parce que nous avons l'honneur de recevoir Fakhr Korshan, imam de la mosquée Fatima, qui est aussi le collègue de la seule femme imam en France, qui est dans une démarche qui est proche de la nôtre, puisque c'est une démarche libérale qui conduit son accès aux textes coraniques. Et nous sommes absolument enchantés d'accueillir notre ami Fakhr Korshan. Je dis notre ami parce que nous nous connaissons depuis un séminaire organisé autour du ministère des femmes et surtout de la place des femmes dans le religieux. Et nous avions fait connaissance à ce moment-là et nous avions parlé du courant qui est celui de Fakhr, qui est le murtazilisme. Fakhr, bienvenue à toi dans cette maison de prière. Nous sommes particulièrement heureux de te recevoir et nous avons la chance de pouvoir ici entendre des voix différentes et qui ont pourtant le même esprit, c'est ce que nous croyons, un esprit de paix, un esprit de rencontre, un esprit de recherche aussi, qui est très important pour Fakhr. Peut-être que tu veux saluer cette assemblée ce matin, même si je sais que tu dois être un peu impressionné, comme on est toujours quand on est invité.
Tout à fait, merci beaucoup. Alors oui, je vous remercie d'être là, vraiment pour moi c'est un énorme honneur d'être présent ici, et juste une petite modification. Il y a trois femmes imam.
Ah, pardon.
Non, mais c'est pas un souci.
Je ne connais pas encore.
Non, mais c'est bien parce que justement, ça permet aux gens du coup de bien mieux retenir l'information peut-être aussi.
D'accord.
Mais en tout cas, je vous remercie vraiment, surtout venir parler ici. Et moi, qui est à une époque, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire du protestantisme et notamment du protestantisme français, avec toutes les grandes figures, etc. Donc, me retrouver ici aujourd'hui. Outre le fait, m'impressionne, parce que c'est ce qui impressionne un peu tout le monde, mais m'impressionne d'autant plus ou me marque d'autant plus que je me sens dans un endroit qui est doublement important, puisque j'ai beaucoup lu l'histoire du protestantisme français jusqu'à la révolte des Camisards et Antoine Court et le rôle qu'il a joué dans la reconstruction du protestantisme français. Donc je suis, voilà, je ne suis pas protestant, hein, évidemment. Mais je me sens un peu auprès d'amis proches, quelque part. Donc, merci beaucoup pour cette invitation.
Merci, Fakhr. Merci beaucoup. Voilà, alors vous voyez, il y a trois femmes imams en France, et on ne le dit pas assez. Je suis désolée de cette ignorance que j'ai en moi. Voilà. Mais en tout cas, c'est parce que j'ai rencontré Kenza et pas les deux autres, malheureusement, encore. Voilà. Alors, pour ce début de culte, je vous invite à entrer dans la prière avec une prière d'une femme qui fait partie du mouvement soufi, et on dit même qu'elle est l'instigatrice du soufisme. On l'appelle la mère du bien, et comme c'est la fête des mères aujourd'hui, je voulais commencer par une prière dite par une femme qui a conduit tout un mouvement dans le soufisme. Elle s'appelle Rabia al-Alawiya. Hadawiya. Ô mon Dieu, si je t'adore par crainte de l'enfer, brûle-moi en enfer. Et si je t'adore par espoir du paradis, exclus-moi du paradis. Mais si je t'adore uniquement pour toi-même, ne me prive pas de ta beauté éternelle. Ô mon Dieu, ma seule occupation et tout mon désir en ce monde, de toutes les choses créées, c'est de me souvenir de toi et dans le monde à venir, de toutes les choses du monde à venir, c'est de te rencontrer. Il en est pour moi ainsi que je l'ai dit, mais toi, fais tout ce que tu veux. Amen. Voilà, je vous invite à chanter le premier répond dans les psautiers. Aujourd'hui, nous chanterons nos cantiques dans le psautier français. Nous louons le Seigneur. Du chef de chœur, psaume de David. Le ciel raconte la gloire de Dieu. La voûte céleste dit l'œuvre de ses mains. Le jour l'annonce au jour, la nuit l'explique à la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur voix. Leurs mesures apparaissent sur toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde. C'est là qu'il a placé une tente pour le soleil. Celui-ci, tel un marié sortant de sa chambre, tout content, se met en route, tel un vaillant guerrier. Il s'élance des extrémités du ciel et achève sa course à l'autre extrémité. Rien n'est à l'abri de sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite. Elle restaure la vie. Le témoignage du Seigneur est sûr. Il rend sage le naïf. Les directives du Seigneur sont droites. Elles réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide. Il fait briller les yeux. La crainte du Seigneur est pure, elle subsiste à jamais. Les règles du Seigneur sont vérité, elles sont toutes justes. Elles sont plus précieuses que l'or, que beaucoup d'or fin, plus douces que le miel qui coule des rayons. Moi-même, ton serviteur, je suis averti par elles. Pour qui les observe, l'avantage est grand. Qui peut connaître ces erreurs involontaires ? Tiens-moi pour innocent de ce qui m'est caché. Préserve-moi aussi des gens arrogants, qu'ils ne dominent pas sur moi. Alors, je serai intègre, innocent de toute transgression grave. Que les paroles de ma bouche et le murmure de mon cœur soient agréés de toi, Seigneur, mon rocher et mon rédempteur. Je vous invite à chanter notre louange avec le psaume 25, les strophes 1, 2 et 4. La volonté du Seigneur pour nous réside dans ce commandement. Aime ton prochain comme toi-même. C'est ce que nous avons à faire sans cesse, les uns avec les autres. Quand Dieu nous invite à regarder ceux qui sont sur notre route comme des frères en Dieu, qu'ils soient croyants ou non, qu'ils soient chrétiens ou non, qu'ils soient hostiles ou non, le Seigneur nous commande de les aimer comme lui les aime. Que cette volonté devienne la règle de nos vies. Nous nous présentons devant Dieu avec cette prière anonyme. Je demandais la force afin de pouvoir accomplir ma tâche, je reçus la faiblesse afin d'apprendre à obéir. Je demandais la santé afin de faire des choses plus grandes, je reçus l'infirmité afin de faire des choses meilleures. Je demandais la richesse afin d'être heureux. Je reçus la pauvreté afin d'être sage. Je demandais la puissance afin d'avoir la louange des hommes. Je reçus l'impuissance afin de sentir le besoin de Dieu. Je demandais toutes choses afin de jouir de la vie. Je reçus la vie afin de jouir de toutes choses. Je ne reçus rien de ce que je demandais, mais tout ce que j'espérais, presque malgré moi, la prière de mon cœur a été exaucée. Je suis bénie plus que tous les autres hommes. Amen. Voici ce que dit Jésus. L'Esprit m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. Et Jésus ajoute, aujourd'hui, cette parole, quand vous l'entendez, est accomplie. Qu'ainsi tous ceux qui se sentent pauvres dans leur cœur se réjouissent de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, et que tous ceux qui se reconnaissent aveugles reçoivent de Dieu l'assurance qu'il vient ouvrir leurs yeux, que tous ceux qui se sentent captifs sentent leurs chaînes tomber par la force de la parole de Dieu. Car aujourd'hui, cette parole est accomplie pour tous ceux qui l'entendent. Je vous invite à chanter votre reconnaissance pour cette grâce renouvelée sur nous tous en chantant. confessons ensemble notre foi avec cette confession de foi aujourd'hui. Nous croyons que tu fais toutes choses nouvelles pour le monde et pour nous, toujours et en tout temps. Toi, le Dieu de la résurrection, de la vie nouvelle et de l'homme relevé. Nous croyons que personne n'est enfermé dans la fatalité du malheur, mais que tu nous offres dans la foi l'horizon d'un bonheur. Nous croyons, grâce à Jésus, que l'homme est ton espérance et que ton amour pour lui est le même amour que tu as pour nous. Nous croyons qu'il est possible de nous laisser convertir à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain, et qu'ainsi le règne de Dieu peut advenir chaque jour dans nos actes et nos pensées. Nous croyons qu'une fraternité de foi existe avec tous ceux qui se soucient de ce monde et de ceux qui le peuplent. Et qu'ensemble, quelle que soit notre tradition de foi, nous pouvons rendre manifestes toutes les choses nouvelles que tu crées pour nous. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Et je vais inviter Fakir à prendre place dans la chaire maintenant. Nous allons prier ensemble avec un autre soufi, Mansour al-Alaj, qui demande à Dieu la lumière. Mon Dieu, fais-moi sortir des ténèbres vers la lumière. Éclaire mon cœur par la science. Donne-nous la lumière par laquelle nous serons dirigés vers toi. Mon Dieu, mets la lumière en mon cœur. Lumière dans mes oreilles, lumière dans mes yeux, lumière sur ma langue, lumière à ma droite, lumière à ma gauche, lumière dessus. Lumière en dessous de moi, lumière devant moi et lumière derrière moi. Mets dans mon âme la lumière, inonde-moi de lumière. Seigneur, dilate mon cœur et aide-moi à bien agir. Mon Dieu, je t'en prie, mets la lumière dans notre vie, la lumière à notre mort, et que la lumière soit dans nos tombes et au jour de la résurrection. Amen. Et je vais maintenant laisser le chœur chanter pour nous un morceau spécialement choisi pour aujourd'hui. Merci. Merci au chœur.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين أما بعد السلام عليكم autrement dit avec le nom de Dieu le clément le miséricordieux louange à Dieu Seigneur des mondes que la paix et la bénédiction soient sur notre maître Mohammed et sur ses proches purifiés pardon et justes que la paix soit sur vous alors tout d'abord je voudrais encore une fois remercier l'institution, l'oratoire du Louvre, de m'avoir invité, de me donner la parole aujourd'hui. Et donc, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est un moment qui est très important en tant que musulman, mais aussi personnellement, j'ai envie de dire, par rapport à ce lien que je me trouve, que je me pense, en tout cas, ou que je me suis trouvé avec une sorte de communauté d'esprit, comme ça a été dit tout à l'heure, avec les protestants. Du coup, pour moi, c'est très important. Ce moment est vraiment un moment très marquant. Et donc, je tiens vraiment à remercier encore une fois tous ceux qui ont rendu ça possible. Et je voudrais aussi rendre hommage à un ancien paroissien, quelqu'un qui a disparu il n'y a pas trop longtemps, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. C'était quelqu'un que j'ai appris à connaître assez tardivement, finalement, malheureusement. Monsieur Bernard Cotteret, un historien très connu. Je regrette qu'il ne soit pas là aujourd'hui pour assister, évidemment. Je l'ai connu dans les vraiment dernières années, alors que, paradoxalement, j'avais rencontré son fils Yann à la fac. Et donc, je ne savais pas qui était Bernard Cotteret à l'époque. Et donc, voilà, je voudrais lui rendre hommage et avoir une pensée aussi pour sa femme et pour Yann, pour son fils et ses petits-enfants. Et d'ailleurs, en parlant de M. Cotteret, je parle aussi de quelqu'un qui a eu un rôle très important dans l'interreligieux. Alors, le dialogue interreligieux, j'aime bien parler de l'échange interreligieux. Souvent, quand on parle de dialogue interreligieux, on a un peu peur de... Il y a des gens qui disent oui, ouais, bon, si c'est passer son temps à regarder l'autre, à dire oui, ah, c'est trop bien ce que tu fais, c'est bien ta foi, c'est joli, tout le monde se dit que tout le monde est beau, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un échange de fond, de parler des choses sur lesquelles on est d'accord, mais aussi de parler des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, toujours en gardant le respect de l'autre, toujours en considérant l'autre comme un autre soi. Et M. Cotteret, par exemple, est un très bon exemple d'une personnalité, du véritable échange interreligieux. Et donc, voilà, donc, à double titre, je lui rends hommage en tant que lui-même et aussi pour le rôle qu'il a joué dans cette question de l'interreligieux. Alors, je vais essayer d'évoquer quelques versets du Coran qui se trouvent à la sourate 6, qui s'appelle les troupeaux, l'An'am. Alors, juste une petite indication, les chapitres du Coran, les sourates, ne sont pas ordonnés d'un point de vue chronologique, mais sont classés des plus grandes sourates, les plus longues, aux plus courtes. Donc, une petite indication, si jamais vous voulez lire le Coran, par curiosité, je vous recommande de commencer par la fin. Parce que par la fin, vous aurez les sourates les plus courtes, mais ce sont aussi les plus anciennes. Et selon certains théologiens, je pense au Soudanais Mohamed Mahmoud Taha, il disait que, et là-dessus je suis assez d'accord avec lui, on a l'esprit de l'islam dans ces sourates-là, dans les sourates les plus courtes de la fin. Et ensuite, vous avez un peu la phase d'élaboration. Donc, voilà. Donc, quand je pourrais utiliser des versets coraniques, passer par exemple, de la 6e sourate à la 2e, et puis à partir à la 37e, etc., ne faites pas attention aux chiffres, parce que, en fait, le chiffre ne veut pas dire qu'elles sont plus anciennes ou plus récentes. Voilà. C'était juste un petit point technique, entre guillemets. Donc, les versets que je vais analyser sont les versets 74 à 81 de la sourate Les Troupeaux, l'An'am. Donc, voilà comment elle commence. Lors Abraham dit à son père Hazar, « Tu prends des idoles pour Dieu, je te vois ainsi que ton peuple dans un égarement manifeste. » Ainsi montrions-nous à Abraham la souveraineté des cieux et de la terre pour le mettre au premier rang des êtres de certitude. Dans votre texte, vous avez peut-être découvrions-nous. J'ai changé la traduction de Berk, Jacques Berk, qui est celle que j'utilise, mais le mot nourri m'a semblé plus approprié d'être traduit par montrer plutôt que découvrir. Mais enfin bon, c'est une petite précision terminologique. Donc au verset 76. Donc, quand la nuit noire fut venue, il vit un astre et dit « C'est mon Seigneur ». Mais quand l'astre eut décliné, « Je ne me satisfais pas, dit-il, de ce qui est sujet au déclin. Quand il vit la lune monter dans sa splendeur, il dit « Voici donc mon Seigneur ». Or, quand elle eut décliné, « À moins que mon Seigneur ne me guide, dit-il, sûr que je vais être du peuple qui s'égare. » Quand il vit le soleil monter dans sa splendeur, il dit « Voici enfin mon Seigneur, c'est le plus grand. » Or, le voyant décliner, « Ô mon peuple, dit-il, je me proclame innocent de cela qu'a Dieu vous associé. Je tourne ma face en croyant originel vers celui qui a créé de rien les cieux et la terre. Moi, je ne suis pas des associants. » Son peuple d'argumenter contre lui. « Vous m'opposez sur Dieu des arguties, dit-il, alors qu'il m'a pris sous sa guidance et que je ne crains nullement cela que vous lui associez, mais seulement que mon Seigneur ait quelque dessein, car sa science embrasse toutes choses. N'allez-vous pas réfléchir ?» Voilà comment prennent fin les versets que je vais analyser. La séquence qui nous intéresse met en scène Abraham, qui est appelé El Khalil dans la tradition islamique, c'est-à-dire l'ami, l'ami de Dieu. Abraham est le fils d'Azar. Dans la Bible, c'est Terah, en Genèse 11, 26. Lui-même fabricant d'idoles. Au cours d'une discussion qu'ils ont soit à Ur, leur ville d'origine, soit à Haran, où ils se sont installés, comme nous le dit la Bible, en Genèse 11, 31 et 12, 1, Abraham reproche à son père et à son peuple d'être dans un égarement manifeste, qui se dit en arabe « Valalen Mubin ». Le mot « Valal » Dalal, si vous préférez, de Dil, Dil, renvoie à l'idée d'ombre, à quelque chose d'opaque, quelque chose de pas net. Lorsque Abraham récuse l'adoration des idoles, c'est peut-être parce qu'il estime que son père et son peuple vouent leur culte à quelque chose qu'il trouve insensé. Ainsi, dans la sourate 37, qui s'appelle Enran, Safet, au verset 91 et 92, il est dit « Subrepticement il, Abraham, alla vers les dieux, vers leur dieu, et dit, leur dieu ce sont les idoles hein, qui étaient fabriquées, alla vers leur dieu et dit, quoi, vous ne mangez pas? Qu'avez-vous à ne pas parler? Avant de conclure à l'adresse des siens en verset 95, adorerez-vous, dit-il, ce que vous avez sculpté? Autrement dit, Abraham n'arrive pas à admettre que quelque chose qui dépend de la création des hommes et du travail des hommes puisse être considéré comme la source créatrice de toute chose. Ne pouvant l'accepter, il cherche la solution ailleurs. Le Coran nous apprend que suite à cette remise en cause radicale de la religion ancestrale, Dieu montra, c'est ma précision terminologique de tout à l'heure, montra à Abraham la souveraineté des cieux et de la terre afin de le rendre au premier rang des êtres de certitude. C'est le moment où Dieu se révèle à Abraham, non via une vision béatifique ou à des miracles extraordinaires, mais par l'observation du monde, et plus précisément de la nature. Or, la thématique naturaliste, c'est-à-dire l'importance de la nature pour trouver Dieu, est centrale dans le Coran. C'est ce qui a fait dire à la tradition islamique que la nature est une base de la connaissance de Dieu, ce qui se dit en arabe « masdar al-ma'rifa », une base de connaissance. Et qu'elle est désignée « El-Kitab al-Mandur », le livre vu ou le livre perçu. Livre qui est parfaitement compatible, et complémentaire d'ailleurs, avec le deuxième livre, celui de la Révélation, qui se dit en arabe « Kitab al-Mastur », le livre, si on traduit littéralement, c'est le livre aligné. Mais j'ai préféré traduire par le livre écrit pour être plus explicite. Et justement, pour parler d'explicite, on a aussi, pour vraiment voir l'importance de la thématique naturaliste dans le Coran, les noms des versets, les noms des chapitres du Coran, des sourates. Je vous donne quelques exemples. Vous avez la plus connue, la sourate La Vache, qui est la plus importante du Coran, la sourate 2. Vous avez les troupeaux, celle dont je parle aujourd'hui. Vous avez les abeilles, les fourmis, l'araignée, le mont, l'étoile, la lune, l'éléphant, le tonnerre, et il y a encore d'autres indications. Mais pour comprendre comment la nature a pu parler à Abraham, peut-être, de manière encore plus explicite, je vais vous citer trois versets de la sourate 16, la sourate Les Abeilles, dans lequel la nature, ici, le rôle de la nature pour comprendre et se rapprocher de Dieu est explicité. Et aussi l'appel, du coup, au raisonnement, à la réflexion à partir de l'observation. Ainsi, il est dit, et donc là, le texte s'adresse au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est une formule éologique qui dit que la paix et la bénédiction soient sur lui et sur ses proches. Voilà ce que dit le verset. « C'est lui, Dieu, qui fait descendre du ciel une eau dont une part sert de boisson. Une autre fait croître la broussaille où l'on lâche les chameaux. Pour vous, il fait pousser la céréale, l'olivier, les palmiers, les vignes et de tous les fruits. En quoi réside un signe pour ceux capables de réfléchir ? Il a mis à votre service la nuit et le jour, le soleil et la lune, et les étoiles qui vous servent sur son ordre. En quoi réside un signe pour ceux capables de raisonner ? Et tout ce qu'il propage sur la terre de varier par les sortes, en quoi réside un signe pour ceux capables de méditer ? Ainsi, la certitude de Dieu, c'est-à-dire de l'existence de Dieu, est devenue réelle pour Abraham, mais cette certitude n'a pas mis fin à toute interrogation ou investigation. Au contraire, cette certitude du divin l'a appelé à s'interroger encore plus, à aller plus loin en quête de clarté pour se rapprocher de Dieu et éviter toute possibilité d'obscurcissement ou d'égarement, de valel, comme on a vu tout à l'heure. C'est à partir de là qu'Abraham commence à spéculer sur la nature de Dieu en espérant s'en approcher. Il a bien vu que la nature révèle Dieu. Alors, c'est là qu'il le cherche en premier. Puisque celle-ci est majestueuse, Dieu ne peut qu'être au firmament. C'est pourquoi il lève les yeux au ciel. Et quand la nuit noire fut venue, il pense d'abord que l'astre, Kaukeb, terme qu'on utilise pour parler aussi des planètes, il pense d'abord que l'astre est Dieu, puis la lune et le soleil. Et enfin le soleil, dont il pense que c'est la bonne réponse, car rien ne semble plus grand. Mais non. Le point commun de ces éléments, astre, lune et soleil, est qu'ils s'élèvent au firmament du ciel, puis déclinent. Abraham sait que la majesté de la nature est constante. Dieu doit donc être constant et ne saurait être sujet au déclin. Ainsi, sa quête de Dieu doit le mener ailleurs. Et en effet, c'est vers une autre direction qu'Abraham comprend devoir s'orienter. Dieu n'est pas à chercher là-haut dans le ciel. Dans le verset 79, que l'on pourrait qualifier de celui de l'illumination, Abraham réalise qu'il doit tourner sa face, l'ouaj en arabe, vers celui qui a créé de rien les cieux et la terre. Celui qui crée de rien, c'est déjà en arabe, fatir, fatir. Et il le fait en croyant originel, hanifan, hanif. Ce verset à lui seul, donc le verset 79, utilise trois concepts fondamentaux de l'islam, tant en théologie spéculative qu'en théologie pratique, sans parler de l'approche mystique, le soufisme. Donc je vous rappelle ces trois notions, la face, la fetra, fatr, donc on reviendra dessus, vous inquiétez pas, et la dernière notion qui est hanif, que Berk a traduit par croyant originel et sur lequel on reviendra aussi. Donc ces trois notions-là sont des notions très importantes et fondamentales en islam. La notion de face, dans le Coran, marque les esprits des musulmans, car sa mention la plus frappante se trouve dans la sourate 55, dans le chapitre 55, que la tradition islamique considère comme étant la plus belle sourate du Coran. C'est pourquoi elle a pour surnom Arous al-Qur'an, c'est-à-dire la mariée du Coran. On considère que les mariées sont toutes évidemment très belles, et à raison sans doute. La mariée du Coran. Donc il s'agit de la sourate Ar-Rahman, c'est-à-dire le tout miséricordieux, le tout clément. Dans ces versets 26 et 27, voilà ce qui est dit. Quiconque elle, donc la terre, quiconque elle porte est périssable. Seule perdure la face de ton Seigneur, pleine de majesté, digne d'adoration. Ce faisant, l'emploi du mot face, dans le verset, ne peut pas nous évoquer autre chose que la face de Dieu, dont il a été question ici, dans la sourate Rahman, le clément, le miséricordieux. La seule qui perdure éternellement. En outre, le mot wajh, en arabe, veut aussi bien dire visage, donc la face, le visage, que la direction ou l'orientation. Lorsqu'Abraham dit wajhtu wajhi, en arabe, il dit qu'il a orienté sa face vers celui qui a créé de rien les cieux et la terre, vers cette fameuse notion de fatr, ouvrant ainsi un lien avec cette deuxième notion qui est fondamentale et qui est évoquée au verset 79. Donc Abraham tourne sa face vers le Fâtre. Il comprend qu'il ne peut que tourner sa face vers le Fâtre, donc vers celui qui a créé de rien les cieux et la terre. Or, ce mot Fâtre n'est pas innocent non plus, quelque part. C'est-à-dire qu'il est employé ici parce qu'il renvoie à une autre notion. Fâtre veut dire celui qui crée de rien. C'est un peu, pour ceux qui connaissent un peu l'arabe, c'est contrairement à Khalaq, qu'on emploie souvent. Khalaqa, c'est créer à partir de quelque chose. On l'utilise aussi pour Dieu, d'ailleurs. Mais Fâtre, c'est celui qui crée à partir de rien. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui ne peut caractériser que Dieu dans la théologie islamique. Et donc, ce terme est bâti sur la racine trilitaire fatara. En fait, pour comprendre, quand on analyse des termes en arabe, comme l'hébreu, c'est une langue qui s'écrit par les consonnes. Et donc, ce qu'on regarde, c'est les consonnes, la base trilitaire, les lettres, qu'est-ce qu'elles veulent dire? Quelle est l'idée primaire, si vous voulez, ou première de ce mot? Et donc, quand on regarde le mot fatr, il renvoie aussi à la notion de fetra, qui se base sur la même racine, fatara. On en retrouve mention dans la sourate 30, qu'on appelle les Romains, ou Rome, au verset 30. Référence facile à retenir, 30-30. Et voilà ce que dit ce verset à l'adresse du prophète et qui nous donne justement le sens de ce que veut dire fetra. Ainsi donc, et écoutez bien comment ça fait écho au verset 79. Ainsi donc, redresse ta face vers la religion, en croyant originel, en suivant la prime nature selon laquelle Dieu a instauré les humains, sans qu'il y ait de substitution possible à la création de Dieu. C'est là la droite religion, mais la plupart ne le savent pas. La prime nature selon laquelle Dieu a instauré les humains, c'est ce que la tradition islamique appelle fetra, et qui est en rapport au fatr, à celui qui a construit, qui a créé cette fetra. Voilà pourquoi Abraham n'a pas réussi à identifier Dieu dans les éléments de la nature. Dieu a laissé cette marque en nous, cette fameuse fetra, il l'a créée en nous. Elle n'était donc pas à chercher hors de lui, hors d'Abraham, mais bien en lui. Voilà pourquoi, pour nous rapprocher de Dieu, c'est d'abord en nous que nous devons chercher, pour trouver l'écho de notre Créateur. Alors, je me suis permis une petite remarque, je suis un petit amateur d'astrophysique, et ma petite remarque est celle-ci, c'est que cette idée de fête, elle peut faire penser à une sorte de fond diffus cosmologique, pour ceux que ça intéresse, qui est si cher aux astrophysiciens, et qui est un rayonnement électromagnétique qui est considéré comme un écho du Big Bang. Voilà, j'arrête là, pour pas que vous croyiez que je suis un astrophysicien. Mes connaissances s'arrêtent en gros ici. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est une idée intéressante, parce que cette idée de fetra, Dieu a créé, et en créant, a laissé une trace, en quelque sorte, une marque de sa fabrique, si vous voulez. Et cette trace, nous la retrouvons en nous, c'est la fameuse fetra. Et c'est en ça que ça m'a beaucoup... cette idée m'a toujours fait penser au fond du fluide cosmologique, et du coup, je me suis dit, bon, bah, voilà, c'est l'occasion de le placer. Et c'est là que l'on comprend à quel point le chemin vers Dieu doit passer par soi-même. C'est l'un des grands enseignements d'Abraham. Car en Hanif, la dernière notion, donc traduite par Berg comme croyant originel, par croyant originel, autrement dit, croyant en Dieu, n'ayant bénéficié d'aucun enseignement, d'aucun livre écrit, d'aucune révélation particulière, Abraham s'est lié à Dieu de lui-même, dans une démarche qu'il a entamée seul, mais que Dieu lui a rendu possible et qui repose essentiellement sur sa volonté, donc à lui, d'interroger et de remettre en question. C'est à partir de ses propres moyens, ceux de l'observation et du raisonnement, qu'Abraham s'est mis en quête de son Créateur. En cela, il est un croyant originel, c'est-à-dire qu'il est parti vers Dieu sans rien, en fait, si ce n'est ses interrogations. Sans doute porté par l'écho du divin en lui, comme le sera plus tard le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme Mohammed, Abraham a été considéré comme un déviant par les siens. Quelqu'un qui est allé à contre-courant. Et cela aussi rentre dans l'étymologie du mot Hanif. Comme je vous l'expliquais, l'arabe racine trilitaire, Hanun fa, la racine, renvoie au mot Hanafa, qui veut dire obliqué ou boité. Autrement dit, pour se rapprocher de Dieu, il faut marcher différemment des autres, quitte à sortir des sentiers battus. En somme, pour revenir à ce qui se trouve en nous, il nous faut savoir nager à contre-courant, si on veut. Il nous faut savoir dévier. Comment ? En faisant comme Abraham, en doutant, en remettant en question, en observant et en réfléchissant. Il est d'ailleurs à noter que même après toute cette réflexion et tout ce cheminement, le questionnement d'Abraham ne s'arrêtera pas pour autant. Ainsi, dans la sourate 2, la vache, au verset 260, il est dit « Lors Abraham dit, « Mon Seigneur, fais-moi voir comme tu ressuscites les morts. » Dieu dit, « Faute de quoi tu ne croirais plus ?» Lui, « Mais si, ce n'est que pour tranquilliser mon cœur. » Voici là toute la quête d'Abraham révélée en une formulation, celle pour l'apaisement de son cœur. Ainsi, tant que notre cœur ne connaît pas l'apaisement, notre lien à Dieu est comme brouillé, une ombre s'y mêle. Ombre qui peut nous empêcher de voir à quel point le chemin vers Dieu est un chemin vers sa propre humanité et vers ce qui nous relie les uns aux autres, la fetra, cette trace de la création divine, et qui est, du coup, la trace du divin en nous tous. Tout cet aspect, cette approche coranique, consiste à allier dans une démarche pieuse la certitude de Dieu avec l'interrogation sur ses modes d'être, et finalement, le questionnement sur nos propres actions, pour nous rapprocher de lui. Certitude et interrogation ne sont pas opposées dans ce schéma, mais se complètent et s'harmonisent. C'est pourquoi un hadith, donc un propos, une maxime, attribué au prophète, Muhammad lui fait dire que nous sommes plus en droit de recourir au doute qu'Abraham. Donc il souligne l'importance du doute, même dans la tradition islamique, c'est-à-dire pour lui, mais aussi pour ses disciples. Abraham est considéré comme le père du monothéisme. Il arrive à le fonder suite à une démarche discursive. Il prend position, examine, garde ce qui doit l'être et rejette de même. La foi d'Abraham est une foi puissante, alliant dans une parfaite symbiose l'apaisement de celui qui a trouvé son but, avec l'interrogation toujours continue et renouvelée sur les moyens pour l'atteindre. C'est cela que relève le hadith du prophète. À noter que les versets 84 à 86, donc toujours dans la sourate 6 qu'on est en train d'étudier ici, précisent les noms d'un certain nombre de prophètes bénis de cet état, donc le même état qu'Abraham. Ainsi, il y est dit « Nous lui accordâmes, à Abraham, Isaac et Jacob, les guidâmes tous trois, et Noé, nous l'avions guidé avant lui, et parmi sa descendance, David, Salomon, Job, Joseph, Moïse, Aaron. Ainsi récompensons-nous, les bels agissants. Et Zacharie, Jean-Baptiste et Jésus, Élie, tous d'entre les justifiés. Ismaël, Élisée, Jonas, Lot, tous, nous les privilégiâmes sur les univers. Il est triste de voir à quel point aujourd'hui beaucoup de musulmans sont devenus incapables de prendre une distance critique pour remettre en question certaines assomptions, certains héritages, à l'inverse d'Abraham, qui a été capable de questionner les orientations religieuses de son père et de son peuple, ou encore à l'image du prophète Mohammed qui a renversé tout un ordre social et culturel pour faire valoir plus de justice, de droit et de vérité. Nous, musulmans dits, entre guillemets, libéraux ou réformistes, nous ne nous sentons pas du tout innovants, nouveaux ou déviants par rapport aux sources scripturaires de l'islam. Peut-être le sommes-nous aux yeux de certains musulmans qui confondent religion et identité, ou auprès de certains ayant un agenda politique de la religion. Nous appelons à un examen critique renouvelé de nos propres sources et de nos propres pratiques. Donc si ce sont ces gens-là, à la limite, qui nous considèrent comme des déviants, c'est même peut-être plutôt une bonne nouvelle. Ce faisant, donc en toujours remettant en question et en analysant, en interrogeant, nous nous découvrons un lien puissant avec la démarche protestante, notamment celle qui consiste à dire que la réforme n'a pas eu lieu au XVIe siècle, mais qu'elle doit être une action constante. Un appel à une, je vais essayer du latin, excusez-moi, à une ecclesia semper reformanda est, c'est-à-dire un appel à ce que l'Église doit toujours être réformée. C'est un peu notre credo aussi. Et c'est aussi le sens de notre démarche, redécouvrir les textes, les interroger et voir le potentiel de rénovation, ou vu le contexte de réformation, si vous préférez du coup, que ceci contienne, à l'image de la grande leçon de notre prophète Abraham. Et comme on dit à la fin de tout prêche, « Wa Allahu a'lam » et « Dieu sait le mieux », merci pour votre écoute et pour votre accueil, et que la paix et la bénédiction soient sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille purifiée, et que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous tous.
Je vous invite à prendre le cantique 101, les strophes 1, 2, 3 et 4. 101 dans le psautier, c'est le psaume 101. Merci à vous. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons partager quelques annonces. Je voulais remercier infiniment Fakhar pour cette analyse de sourate coranique avec son éclairage analytique qui nous a vraiment beaucoup aidé à voir toutes les nuances importantes dans ces mots. Et nous voyons à travers cette analyse du Coran comment les mots sont toujours à relire, rediscuter, réanalyser pour pouvoir ensemble traduire en sachant toujours que les traductions évoluent, changent selon les contextes et que nous avons toujours à revenir à l'étude. Merci Fakhar de nous avoir montré cet aspect-là de ta foi, de ta pratique. Et alors Fakhar est aussi philosophe, ce qui fait aussi qu'il a une entrée particulière aussi peut-être dans l'analyse, mais ce n'est pas la seule évidemment. Et puis merci aussi pour le courage de tes propos sur ce que nous avons tous à faire en religion. Merci. Merci au cœur de l'oratoire de nous avoir offert cette belle méditation musicale. Merci à Sarah de nous accompagner aujourd'hui. Nous étions très heureux d'être tous ensemble pour cet événement. Aujourd'hui, Agnès n'est pas là et c'est vraiment, elle le déplore, parce qu'elle aurait aimé vraiment être avec nous et avec Fakhar. Mais elle s'était engagée à aller prêcher à Châtillon-Coligny où il n'y avait pas de pasteur. Et donc, elle est allée dans un sens d'entraide pour l'église de Châtillon-Coligny qui avait besoin d'un prédicateur ce matin. Et Agnès vient donc de prêcher dans l'église de Châtillon-Coligny. Et nous saluons nos amis de Châtillon-Coligny peut-être qu'ils regarderont ce culte après le culte de Châtillon. Et donc, nous les saluons. Mais elle est complètement associée à notre matinée. Nous avons un programme du mois de juin très riche. Nous sommes très heureux de voir que la situation sanitaire s'améliore un peu, même si ce n'est pas fini pour beaucoup de familles. Il y a encore de nombreux problèmes dans les hôpitaux notamment. Et puis, beaucoup de gens sont encore atteints du coronavirus. Donc, il faut toujours être vigilant, continuer cette campagne énorme de vaccination qui nous fera sans doute sortir de cet écueil terrible qu'est cette pandémie. Mais nous avons la possibilité maintenant de voir venir les choses un peu mieux. Et le 10 juin, nous avons notre culte musical de consolation et de mémoire qui aura lieu donc à 19h ici. Un culte pour se souvenir de ce que nous venons de traverser collectivement les uns et les autres. Et nous avons pensé que la musique était sans doute le meilleur vecteur pour tous ceux qui voulaient se réunir dans la communion fraternelle. Encore une fois, qu'ils soient protestants ou non, qu'ils soient croyants ou non, tous vos amis, tous ceux à qui vous pourrez dire que ce culte existe sont les bienvenus pour être consolés sans doute par la musique et par les mots que nous allons prononcer ce jour-là après cette terrible période que nous avons traversée. Donc le 10 juin à 19h. Et puis le 13 juin, nous aurons, alors dans une autre teinte, hein, nous aurons la fête de notre paroisse avec donc les écoles bibliques seront là et nous aurons la possibilité donc de nous réunir le matin avec toute l'éducation biblique, le midi avec un pique-nique sur les pelouses du Louvre. Donc apportez votre pique-nique et nous irons tous déjeuner ensemble, mais avant nous aurons une présentation d'un livre qui fait écho à ce que nous avons vécu aujourd'hui. C'est le livre de Pierre-Olivier Léchaud, Luther et Mahomet, qui sera présenté ici et qui parlera des rapports du protestantisme avec l'islam au cours de l'histoire. Et donc, j'aurai l'honneur de présenter ce livre et de faire parler Pierre-Olivier sur son œuvre. Voilà, donc nous aurons cette joie de faire ça juste avant d'aller pique-niquer ensemble. Et puis l'après-midi, pour ne pas se quitter trop vite, nous aurons jusqu'à 15h30, si vous le désirez, un parcours du Paris protestant, ou plutôt un parcours dans la petite Genève. Donc tout ce quartier de Saint-Germain-des-Prés où nous avons, il y a beaucoup de lieux historiques qui nous rappellent ce qui s'est passé pour les protestants à Paris. Puisque vous savez qu'avant c'était plutôt un faubourg par là et que les protestants s'étaient beaucoup réunis là. Il y a eu des événements importants comme des cultes, un premier baptême, enfin il y a eu des choses importantes. Tout ça évidemment dans une certaine clandestinité, mais ça fait partie complètement de notre histoire du protestantisme français. Donc si vous voulez faire ce parcours-là, qui sera très ludique et en équipe avec enfants et parents et tous ceux qui veulent se joindre à nous, vous êtes les bienvenus. Ça, c'est pour le 13 juin. Et puis, maintenant, je relaie l'appel qu'avait fait notre trésorière dimanche dernier sur la question de l'IFI pour ceux qui sont assujettis à cet impôt. C'est le moment, en ce moment, de pouvoir donner à la Fondation de l'Oratoire du Louvre pour soutenir tous les projets patrimoniaux de l'Oratoire du Louvre. Donc, n'hésitez pas à le faire maintenant, puisque c'est lié à la déclaration fiscale de revenus. Pour les autres, évidemment, pour ceux qui ne sont pas assujettis à cet impôt, vous pouvez évidemment donner vos dons avec le don joyeux, le bouton le don joyeux sur notre site internet. Et aujourd'hui même, si vous le désirez, avec le temps d'offrande que nous allons partager ensemble. Donc c'est maintenant le temps de l'offrande donnée à cette Église pour qu'elle continue à annoncer la paix. Merci Sarah pour cette arabesque. Je vous invite à nous réunir dans la prière. Toi, le Dieu polyglotte, tu parles à chacun dans le secret du cœur et tu nous réunis par ton esprit de fraternité. Aide-nous à vivre cette fraternité en parole et en acte dans notre société. Toi, le Dieu polyglotte, tu parles à tes enfants de diverses façons et pas un ne croit en toi comme son frère. Aide-nous à comprendre cette relation de foi de chacun avec toi et garde-nous de toute intolérance. Toi, le Dieu polyglotte, tu nous ouvres l'esprit à ce qui nous est inconnu, impensé et parfois impensable. Aide-nous à ne pas refuser d'entendre le récit d'autres réalités qui nous paraissent impossibles à accepter ou à comprendre. Rends-nous hospitaliers pour la parole de notre prochain. Toi, le Dieu polyglotte, tu te fais dans nos silences, tu viens et tu te tais, et tu veilles sur nos doutes. Aide-nous à traverser les moments de jachère où la terre de notre esprit doit se reposer de tout jugement. Accorde-nous la patience et la sagesse. Toi, le Dieu polyglotte, tu accueilles toute prière et toute révolte avec le même amour. Aide-nous à t'aimer et à aimer notre prochain avec la même constance. Ne permets pas que de conditions viennent se placer autour de notre amour. Apprends-nous la grâce. Et ensemble, nous pouvons dire la prière que le Seigneur a apprise à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, c'est maintenant le moment d'aller dire à ce monde que la paix existe, si nous la construisons, que les frères sont de vrais frères, s'ils se font confiance, que l'amour du Seigneur est la règle de ce monde, si c'est nous qui l'instaurons. Allez et soyez dans la paix du Seigneur. Recevons la bénédiction de Dieu. Le Seigneur, de toute grâce, vous bénit et vous garde dans sa paix. Amen.
s'il vous plaît. Vous laissez les cantiques sur les chaises.